France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Cinquième épisode aujourd'hui, dans quel monde vivons-nous ? C'est vraiment un lieu commun de dire des philosophes de la technique que leurs propos sont particulièrement actuels, voire visionnaires. Pourtant, je dois dire que je ne vois pas vraiment comment qualifier autrement les analyses de Günther Anders sur la culture et le monde dans lequel elle nous fait vivre. Pour vous donner une idée, je citerai le titre de l'un des chapitres de L'obsolescence de l'homme, Le monde livré à domicile, ou le fait qu'il évoque le cinéma en 3D, ou encore notre connivence avec les héros de fiction et de séries devenus plus proches que nos proches. Enfin, l'information délivrée en permanence sur nos écrans et qui nous coupe du monde extérieur. Je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher sur la philosophie de la culture de Günther Anders. Comment façonne-t-elle le monde dans lequel nous vivons et jusqu'à quel point devons-nous nous montrer critiques de la culture de masse et des médias qui la véhiculent? Jusqu'où faut-il craindre que ces valeurs et productions culturelles nous déterminent? Et tout simplement, qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce qui est culturel? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Perrine Wilhelm. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'Université Paris 8 et votre thèse porte sur Günther Anders comme critique de la culture. Vous avez récemment coordonné le numéro des cahiers philosophiques sur Günther Anders qui est apparu en mars dernier chez Vrin et vous travaillez et avez travaillé avec Annika Ellenberger et Christophe David à la traduction de plusieurs ouvrages de Günther Anders, notamment L'humain étranger au monde, une anthropologie philosophique, apparaître chez Fario en 2023. Perrine Wilhelm, je viens de le dire en introduction, la question de la culture occupe Günther Anders dans plusieurs de ses ouvrages, dans L'obsolescence du monde, dans un texte que nous allons évoquer également, L'homme sans monde. Qu'est-ce qu'il faut entendre par culture ?
Alors, le terme de culture chez Anders est très vaste, c'est-à-dire beaucoup plus vaste que ce que nous entendons aujourd'hui par culture, c'est-à-dire les ensembles d'institutions culturelles, d'art culturel. Donc la culture ne se cantonne pas à par exemple la littérature, la musique, le cinéma, bien que évidemment elle englobe ces champs. La culture pour Anders, c'est un terme qui est anthropologique et qui tient en fait à une situation très spécifique de l'humain dans le monde. Et donc cette situation spécifique de l'humain dans le monde, c'est celui d'être toujours étranger au monde. Anders, c'est la thèse principale de cet ouvrage qui est L'humain étranger au monde. Qui regroupe l'anthropologie philosophique, l'ensemble des textes qui constituent l'anthropologie philosophique de Günther Anders.
Qui sont les textes, les premiers écrits, disons, peut-être alors, une première période dans l'œuvre de Günther Anders.
Alors, cet ouvrage que nous sommes en train de traduire et qui va sortir bientôt chez Fario, regroupe les textes des œuvres de jeunesse d'Anders. Donc la conférence qu'il a tenue en 1929 devant la Kantgesellschaft en Allemagne, qui s'appelle « L'humain étranger au monde »,« Die Weltfremdheit des Menschen » en allemand, ainsi qu'un certain nombre d'articles qui ont été écrits à partir de cette conférence et dont nous avons uniquement conservé leur traduction française par quelqu'un de très connu qui est Emmanuel Levinas et par un autre personnage assez étrange qui est Stéphanopoli. Donc ces textes qui sont encore connus aujourd'hui par le lectorat français parce qu'on en a gardé uniquement les traductions françaises et dont les originaux allemands ont été malheureusement perdus au cours de l'exil d'Anders. Et en plus de ces textes, il y a un certain nombre de travaux préparatoires à cette conférence et à ces textes, à ces articles français, qui posent la question du besoin, la question du rapport, de l'ancrage des catégories philosophiques dans la question de la situation et du corps, de la corporéité. Et ensuite, un certain nombre d'autres écrits d'anthropologie philosophique qui, eux, sont plus tardifs, donc qui couvrent aussi, qui sont datés des années 50, donc dans la période de l'obsolescence de l'homme, et même de la toute fin de la vie d'Anders, donc des années 80. Et donc, on voit quelque chose comme une fidélité de Günther Anders à l'anthropologie philosophique, tout au long de sa vie.
Et donc, dans cette anthropologie philosophique, qu'est-ce qu'il développe comme thèse en lien avec ce que vous avez défini, disons, pour commencer, c'est-à-dire cette culture entendue au sens large, même si on peut préciser, peut-être pour nos auditeurs et auditrices, que les intérêts de Anders au début de sa carrière universitaire, sa thèse de doctorat notamment, enfin de son habilitation à diriger les recherches plutôt, portent sur la musique, c'est-à-dire sur un objet culturel précis.
C'est ça. Donc, bon, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais pour la question sur cette définition de la culture, comme je l'ai dit, la catégorie anthropologie fondamentale pour Anders, c'est celle de l'étrangeté, l'extranéité plutôt. C'est le terme qu'on a choisi pour traduire le fait d'être étranger au monde.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Extranéité, c'est vraiment le fait d'être, de ne pas avoir de monde propre. C'est-à-dire que l'être humain est toujours a posteriori pour Günther Anders. Il n'a pas d'a priori, il n'y a pas de définition propre, il n'a pas de monde qui lui appartient toujours déjà a priori. L'être humain doit construire un monde et il doit se construire lui-même à travers ce monde. Donc le propre de l'anthropologie philosophie d'Anders est d'être négative, donc de ne pas poser une définition fixe de l'être humain, mais de dire que ce qui est le propre de l'humain, c'est de devoir toujours se construire et construire un monde propre. Et du coup, cet acte de construction d'un monde propre, d'un monde qui soit toujours celui que se donnent en commun les êtres humains, c'est la culture. La culture, c'est le fait, la mise en culture du monde, c'est le fait de se construire un monde propre a posteriori.
Donc dans cette définition de la culture comme monde ou du monde comme culture, est-ce qu'on retrouve là une certaine proximité avec des thèses de d'Arendt ?
Moi, j'y vois une certaine proximité, en effet, puisque chez Arendt, le monde est une condition de la vie humaine. Elle est cette condition qui permet de créer un monde commun qui est de l'ordre, qui est en rapport avec le fait que l'être humain est un homo faber, donc un être capable de produire une œuvre, de produire des objets durables, des objets qui ont une certaine continuité dans le temps. Et donc, la catégorie du monde chez Arendt, ou plutôt la condition du monde chez Arendt, c'est cette construction d'une œuvre durable et d'un monde durable dans lequel quelque chose comme une société, un monde commun ou un espace public et commun peut apparaître. Et donc il y a chez Anders comme chez Arendt l'idée que le monde, c'est quelque chose comme une construction sociale ou une construction dans lequel les êtres humains, les êtres en société, vont essayer d'établir quelque chose de durable à partir duquel ils vont pouvoir construire un monde social et politique.
Alors, l'impression que j'ai, c'est que sur ce thème-là, il y a quand même une certaine évolution chez Anders, qu'on passe quand même d'une appréciation justement de la production d'œuvres, d'objets, comme quelque chose qui permet de construire ou de poser, comme vous venez de le dire, une certaine stabilité du monde, à une appréciation beaucoup plus critique, en fait, de la culture, de ses productions, de la manière dont ces objets peuvent entretenir nos besoins de manière artificielle. Est-ce que on peut le dire comme ça, ou est-ce que au contraire il y a une continuité? Je vous vois un petit peu sceptique.
Alors, justement, dans cette définition de la culture comme, si vous voulez, comme élément de liberté, donc comme élément de capacité à produire quelque chose de nouveau ou à produire un élément social, il y a aussi, ça contient toujours déjà la possibilité, si vous voulez, de l'aliénation ou de la mise en servitude des êtres humains par eux-mêmes. Parce que quand on construit un monde à plusieurs, ça ne veut pas dire que ce monde qu'on construit à plusieurs, il se fait en accord avec tous. Il peut y avoir des éléments de domination des uns sur les autres. En fait, construire un monde, c'est établir des conventions. Et ce que dit Anders, c'est qu'il faut toujours faire attention à la manière dont on établit ces conventions. Parce que ces conventions, elles peuvent être de l'ordre de chaînes que certains imposent à d'autres. En fait, il y a des fables très intéressantes, justement, dans les écrits d'anthropologie philosophique. Une fable qui s'appelle « L'humain est à moitié cuit, donc libre », où il dit « Mais en fait, la liberté signifie aussi se donner des chaînes. » C'est-à-dire, la liberté signifie aussi créer un certain nombre de conventions sociales, créer des lois, des règles qui vont s'imposer aux uns, parfois au détriment des autres.
Cette aliénation, elle passe aussi par les objets. Je vous propose qu'on écoute un extrait de l'obsolescence de l'homme et qu'on en discute ensuite.
Ce qu'on a, on ne se contente pas de l'utiliser. On en a aussi besoin. Quand on s'est habitué à quelque chose, on ne peut plus s'en passer. On ne finit pas par avoir ce dont on a besoin, on finit par avoir besoin de ce qu'on a. L'état créé par l'acquisition de la chose s'impose psychologiquement comme l'état normal. Ce qui signifie que si cette chose possédée vient à manquer, ce manque n'est pas ressenti comme une simple lacune, mais comme une véritable faim. Aujourd'hui, il nous manque toujours quelque chose. Le besoin talonne la consommation. Que Dieu ou la nature ait inculqué à l'homme un basic need, un besoin inné de Coca-Cola, on n'ose pas le soutenir, même dans le pays qui le produit. La soif s'est pourtant là-bas habituée au Coca-Cola. Et cela, nous arrivons au cœur de l'affaire, parce que la fonction ultime et secrète de cette boisson n'est nullement d'étancher la soif, mais de faire naître une soif spécifique, celle de Coca-Cola. Ici, la demande est donc le produit de l'offre, et le besoin, le produit du produit. En même temps, le besoin que le produit a fait naître fonctionne comme la garantie d'une augmentation continue de sa production.
C'était donc un extrait de l'obsolescence de l'homme, un texte de 1956 dans une traduction de Christophe David et lu ici par Jules Barbier. À travers cet exemple de la bouteille de Coca-Cola, Perrine Wilhelm, ce dont nous parle Günther Anders ici, donc c'est la manière dont ces objets qui sont produits, alors peut-être la première question, c'est est-ce qu'ils font partie de la culture, ces objets-là ?
Bien sûr, et ils font partie de cette culture très spécifique qui est la culture de masse contemporaine. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit là comment la culture de masse contemporaine renverse les catégories anthropologiques fondamentales et conduit à ce qu'Anders appelle l'obsolescence de l'homme. Parce que qu'est-ce qui est obsolète ? Dans cette obsolescence de l'homme, c'est justement toutes les catégories anthropologiques qu'il a posées dans ses premières œuvres. Ce que je veux dire par là, c'est que pour Anders, cette question de culture, elle signifie aussi que le monde est insuffisant pour l'être humain. C'est-à-dire, il a une conception de la culture qui est toujours déjà économique. Pour lui, le besoin de l'être humain anthropologiquement, dépasse toujours l'offre que lui propose le monde. Et c'est pour ça qu'il est étranger au monde. Et du coup, il y a quelque chose comme un décalage anthropologique entre les besoins de l'être humain qui dépassent l'offre du monde. Mais ce qu'on voit là, dans cet exemple du Coca-Cola, c'est qu'on trouve à un moment donné où ce ne sont plus les besoins de l'être humain qui dépasse l'offre du monde, mais l'offre du monde, l'offre capitaliste, l'offre de la production de masse, qui dépasse notre besoin. Et du coup, ce que doit faire, ou ce que demande toujours déjà la production capitaliste, c'est de créer un certain nombre de besoins. Et c'est ça qui fait marcher l'économie capitaliste ou le système productif actuel. C'est ce qu'on appelle la publicité, tout simplement. Mais aussi ce qu'on appelle le conformisme, la création d'une idéologie. C'est le fait que le système productif doit créer un certain nombre de besoins pour continuer à produire en masse. Et là, l'exemple du Coca-Cola, il est tout à fait parlant, parce que c'est une boisson qui, non seulement crée un nouveau besoin, le besoin en boisson sucrée, mais quand on en boit, elle n'étanche pas la soif. Quand on boit du Coca-Cola, c'est sucré, on a encore plus soif. Mmh. Donc en fait, c'est une boisson, un produit qui n'est pas là pour créer, pour répondre à un besoin, mais qui est là pour créer de manière cyclique et toujours et encore recréer à l'infini le besoin. Et ce qui fait que c'est une sorte de produit idéal. C'est un produit qui finalement entraîne la consommation à l'infini de produits.
Et dans cette critique de la culture, et donc notamment de la culture de masse, est-ce qu'il y a, enfin, quel est le lien avec l'école de Francfort? On sait que Anders a fréquenté notamment Adorno et d'autres membres, Marcuse, de l'école de Francfort lors de son exil aux États-Unis et même auparavant. Comment est-ce que cette critique-là s'articule à celle qui est aussi produite par les penseurs de l'école de Francfort?
Oui, alors là, cette question des besoins, elle est tout à fait au centre des liens d'Anders avec l'école de Francfort. Parce que il y a eu ce moment très particulier de l'Institut de recherche sociale qui a émigré aux États-Unis et pas n'importe où, en Californie, à Santa Monica. Et donc, il y a eu, en 1942, à Santa Monica, un séminaire sur les besoins qui a été organisé par l'Institut de recherche sociale et qui a réuni des cercles qui ne se connaissaient pas jusqu'alors et qui étaient les cercles de l'Institut de recherche sociale avec Adorno, Horkheimer, Marcuse, les frères Marcuse d'ailleurs, Herbert et Ludwig, le cercle brechtien, donc le cercle des écrivains et compositeurs. Donc il y a Brecht, il y a Hans Eisler et un certain nombre d'autres personnages comme le physicien Reichenbach. Et donc, tous ces personnages hauts en couleur se réunissent à Santa Monica, dans une villa en Californie, pour parler du problème des besoins. Et de cette question qui est finalement la question de la culture de masse ou de l'industrie culturelle, c'est est-ce que on peut opposer à la création infinie de besoins une philosophie d'un retour à la naturalité des besoins ou d'un retour à quelque chose comme un besoin naturel ou à une nature humaine. Et là où Anders et Adorno, Horkheimer sont extrêmement proches, c'est de dire que il n'y a jamais de besoin naturel. C'est-à-dire que ce que dit Anders dans son Anthropologie philosophique et ce que disent Adorno et Horkheimer, et en particulier Adorno, dans la dialectique de l'Aufklärung et dans la dialectique négative, c'est de dire que finalement, il y a quelque chose comme une dialectique des besoins et de la naturalité. C'est-à-dire que la création de besoins par le système publicitaire, par l'industrie capitaliste, si on veut, va toujours chercher à faire passer le besoin qui en sont créés pour un besoin naturel, c'est-à-dire à créer une forme d'idéologie. En fait, c'est ça l'idéologie, c'est le fait de naturaliser une situation économique et sociale donnée. Et donc cette question de la création des besoins et de cette dialectique entre nature et culture, si vous voulez, qui sont en fait chez Anders comme chez Adorno, et on peut pas dire qu'il y a quelque chose comme une opposition de la nature et de la culture. C'est ça qui est fondamental. C'est que la culture via l'idéologie va toujours vouloir se faire passer pour une nature. Et elle ne l'est jamais. Et il n'y a jamais de nature. Il n'y a jamais rien qui soit de l'ordre du sauvage ou du naturel dans le monde qu'on connaît. En fait, nos besoins sont toujours déjà culturels. Quand on a soif ou quand on a faim, ça c'est Horkheimer qui dit ça dans ce fameux séminaire sur les besoins. Quand on a soif, on n'a jamais soif en général. On a soif de quelque chose en particulier. Par exemple, lui prend l'exemple du lait. Et quand on boit du lait, on a toujours déjà en tête une forme ou un élément formel de ce besoin matériel. C'est-à-dire que le lait implique toujours déjà une façon de consommer, une façon de produire ce qu'on consomme, et implique toujours déjà des éléments métaphysiques et formels et des éléments sociaux. Donc ça implique une production de masse, ça implique que certains travailleurs sont aliénés dans la production de lait. Horkheimer ne dit pas ça, mais ça implique aussi une certaine exploitation des éléments naturels, des vaches qui produisent le lait, du paysage. Donc les besoins matériels contiennent toujours déjà un élément formel.
Mais ça conduit Anders à une critique de la culture qui est très sévère et assez radicale. Dans L'Homme sans monde, il y a des phrases qui paraissent assez définitives. Par exemple, il dit « la culture est le territoire de ce qui a perdu sa valeur ou de ce qui est d'emblée sans valeur ». Donc en fait, il y a, j'ai l'impression, quelque chose de très définitif en fait dans cette condamnation de la culture.
Alors là, c'est encore autre chose. C'est un autre versant de cette dialectique, si vous voulez, entre nature et culture. Parce que pour Anders, il y a quelque chose de très significatif dans notre modernité. c'est l'idée des valeurs culturelles. L'idée que le cinéma, l'art, la musique sont une valeur en soi. L'idée que tous les éléments de production d'œuvres culturelles sont une valeur ou un héritage à se transmettre. Et ça, c'est une idéologie très propre à notre modernité et très bourgeoise pour Anders. C'est-à-dire que pour lui, le fait même qu'on dise que la culture en elle-même est une valeur, la neutralise en quelque sorte sur un plan politique. C'est-à-dire qu'on ne pose plus la question de qui a produit cette culture, ni pour qui, ni dans quelle optique politique, mais on se dit toute œuvre culturelle est une valeur. Et ça, c'est déjà un geste politique. C'est un geste qui participe d'une idéologie et qui est en soi problématique pour Anders.
Oui, c'est cette extension finalement de la culture ou de l'étiquette en fait culturelle. Tout devient culturel en fait, y compris les films à gros budget. On peut penser aujourd'hui à ce qu'on appelle la pop culture, la manière dont, je sais pas, les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, c'est devenu justement des objets culturels, presque des valeurs culturelles. C'est aussi ça qui le remet en question.
Oui, en fait, il y a une phrase très intéressante dans des manuscrits d'Anders qui ne sont pas publiés. Et qui sont les manuscrits de philosophie de la culture, Kulturphilosophie, où ils disent qu'il interroge lui, c'est pourquoi dans l'idéologie contemporaine, tout devient valeur culturelle, des amulettes Veda jusqu'au film de série B. Et il se dit, mais en fait, si tous ces objets d'art sont des valeurs culturelles, sans distinction aucune, sans hiérarchie, alors comment distinguer? Qu'est-ce qui vaut? En fait, plus rien ne vaut. Si tout est valeur culturelle, en fait, elles ne valent plus vraiment. Vous voyez, si tout est valeur culturelle et si on peut consommer de la même manière n'importe quelle idéologie, finalement, plus aucune idéologie n'a un rapport avec la vérité. Ce qu'il interroge, lui, c'est cette notion de tolérance qui est propre au capitalisme. C'est-à-dire que pour lui, le problème, c'est qu'on arrive à consommer de la même manière n'importe quelle idéologie culturelle. Or, si on consomme n'importe quelle idéologie culturelle, comment choisir entre elles?
Je vous propose sur ce sujet qu'on écoute une lecture de L'Homme sans monde que nous avons déjà évoquée.
France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Par l'expression « homme sans monde », je décris l'homme à l'époque du pluralisme culturel. Cet homme qui, parce qu'il participe simultanément à de nombreux, à de trop nombreux mondes, n'a plus de monde déterminé, et n'a donc pas de monde. J'ai expliqué la différence entre pluralisme intériorisé et pluralisme simple, et défini le pluralisme intériorisé par le fait que ses adeptes non seulement tolèrent les autres, leur reconnaissent le droit de croire, de défendre ou de faire ce qu'ils veulent, mais à cela, il faut ajouter qu'allant plus loin encore, nous nous engageons à leur côté, en croyant avec eux à ce en quoi ils croient. Mais cette formulation ne rend pas encore compte de toute la vérité du pluralisme d'aujourd'hui. Ce dont il s'agit ici est quelque chose de bien moins subtil. Si nous nous montrons prêts à dire oui à tout, sans faire de différence, par générosité, tolérance, manque de caractère, indifférence, voire enthousiasme, ce n'est pas d'abord un fait spirituel, mais un fait commercial. Nous sommes tolérants, indifférents, etc., parce que chaque objet, quelle que soit la chose, le Dieu qu'il représente revendique en sa qualité de marchandise de jouir des mêmes droits que les autres et donc d'avoir la même valeur.
C'était donc un extrait de L'Homme sans monde, écrit sur l'art et la littérature, un texte de Günther Anders, lu ici par Jules Barbier dans une traduction de Christophe David. Alors en effet, ce texte, il est surprenant puisque il y a en quelque sorte une critique de la tolérance, en réalité, qui est une valeur si importante pour nous, a priori. Qu'est-ce qui motive cette critique, Perrine Wilhelm?
Alors, effectivement, ce texte, il est très surprenant parce que pour nous, la tolérance, c'est ce qui permet la démocratisation du débat et le fait de pouvoir apaiser des tensions entre des dogmatismes irréconciliables. Et le problème que voit Anders dans le capitalisme d'aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle le pluralisme intériorisé. En fait, c'est un concept assez simple, qui consiste à dire qu'on arrive à consommer en même temps, et c'est le « en même temps » qui est important, ce qui est important c'est la juxtaposition, des idéologies complètement opposées et complètement contradictoires. C'est-à-dire qu'on arrive en même temps à être ou à se dire ou à se penser totalement athée et à écouter une passion selon saint Matthieu de Barre. On arrive à militer en buvant du Coca-Cola. On arrive à, enfin vous voyez, on arrive à faire à parce que en fait c'est le système même du capitalisme qui nous force à consommer et à ingérer et à digérer des idéologies contradictoires en même temps. Ce qui signifie pour lui une liquidation, donc une consommation, une destruction, une liquidation des idéologies en tant que telles. Ce qui signifie que pour lui, la tolérance généralisée ou intériorisée, elle signifie en fait une destruction de toute prétention à la vérité. Et qui est proprement nihiliste. Pardon. Et donc, ce nihilisme contemporain qui a trait à la société de consommation, en fait, il a trait aussi au système médiatique, au fait qu'on soit constamment à la radio, à la télévision, et ça, c'est très drôle. C'est pour ça que c'est très bien de parler de Günther Anders à la radio, c'est parce qu'il fait une critique de la radio. En fait, on est constamment bombardé, en même temps, en écoutant, en regardant, par des stimuli sonores et intellectuels qui contiennent à chaque fois des énoncés, des jugements que nous consommons sans même les interroger ou que nous consommons de manière liquide, de manière non totalisée ou sans les réfléchir, sans les imaginer, sans se les représenter.
Oui, là-dessus, j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à parcourir ne serait-ce que les quelques pages de l'obsolescence de l'homme, parce que c'est vrai que les pages sont assez sidérantes d'actualité. J'évoquais en chapeau les films en 3D, je ne savais même pas que ça existait à cette époque, et tout ce qu'il dit, comme vous venez de le dire, sur la manière dont les médias de masse, la radio, la télévision, importent en quelque sorte dans les foyers, chez les individus, le monde extérieur, mais de manière déformée. Il vous reste une petite minute,
alors,
Périne, pour conclure.
Pour conclure, peut-être conclure sur cette idée que finalement, en ingérant en permanence un certain nombre de messages via la radio, via la télévision, en fait, pour Anders, on est en quelque sorte rendu captif de ces messages. On est infantilisé, en quelque sorte, au sens où on perd notre capacité à nous exprimer et à parler. Infance au sens étymologique de celui qui n'a pas le droit de parole. On est réduit à un statut de spectateur ou de personne qui écoute et donc qui obéit. En fait, on est rendu obéissant par ce système médiatique. Et du coup, pour finir, la perspective que prend celle de Günther Anders, c'est celle d'un Aufklärer, d'un homme des Lumières du XXe siècle. Être un homme des Lumières, ça signifie finalement essayer de nous émanciper de ces discours et de nous émanciper en essayant de nous les représenter et de les réfléchir de manière totalisée en faisant travailler notre imagination. Et c'est ce travail de l'imagination qui est au fondement de la critique de la culture de Günther Anders.
On l'a vu pour autant, lui-même n'est pas du tout en retrait des médias. C'est ça qui est assez ironique peut-être, ou en tout cas paradoxal. C'est qu'il est totalement investi dans l'espace public, dans la polémique, dans les médias en réalité.
C'est ce que je voulais dire avec cette idée de travail de l'imagination. C'est-à-dire que cette position de critique de la culture ne signifie pas qu'il faut laisser tomber tout objet culturel et qu'il faut laisser tomber ce travail de création de monde. Au contraire, tout l'enjeu politique, ça va être de réinvestir le lieu qu'est la culture en essayant d'ouvrir les yeux sur l'aliénation du monde qui nous entoure et le conformisme du monde qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'Anders a écrit des livres et des romans.
Merci beaucoup Périne Wilhelm. Les références de vos écrits sont disponibles sur le site franceculture.fr et dans l'application Radio France, comme tous les épisodes de cette série. Merci à Daphné Leblon à la réalisation, Jules Barbier qui a préparé cette émission et Alex Dang à la technique. La semaine prochaine à midi, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie qui vous proposera une série d'émissions « Avoir raison avec Harriet Taylor-Mill ».